Dans la vie, il y a de nombreux défis qui existent. Et ce matin, j'aurais voulu pouvoir vous parler d'un défi qui se trouve plutôt dans le domaine de la sphère relationnelle. Ce défi, c'est celui d'être un moteur pour les autres. J'aimerais que ce matin, nous puissions nous demander ce que nous sommes pour les autres. Est-ce que nous sommes des moteurs qui aidons les autres à aller plus loin sur leur chemin, ou bien est-ce que nous sommes plutôt des freins pour eux dans leur vie et sur leur chemin? Pour cela, je vous invite à la lecture de deux textes. Le premier, donc, dans l'épître de Jean. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Il le conduisit à Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Et puis un autre texte, en Matthieu. « Alors, on lui amena à Jésus des petits-enfants afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Et il leur imposa les mains et il partit de là. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où la recherche du bonheur est devenue essentielle. Certains psychologues estiment que c'est pour cette recherche du plaisir que l'homme aurait été créé. Plaisir et bonheur. Aujourd'hui, nos sociétés occidentales aimeraient certaines remplacer ou compléter le PIB par l'indice du bonheur. L'indice du bonheur mondial part de la question suivante : qu'est-ce qu'un monde heureux ? À cette réponse, quatre critères ont été posés. Un monde heureux, c'est un monde en paix. Un monde où les droits de l'homme sont respectés. Un monde où la qualité de vie est élevée. Et puis un monde où chacun peut se former, s'informer et communiquer avec les autres. Alors, si dans nos sociétés occidentales où nous vivons, nous semblons nous rapprocher de ces critères, si nous prenons en compte l'ensemble de la planète, il est bien évident que on ne va pas trouver de paix, de respect des droits de l'homme, etc. Ce monde-là est bien utopique quelque part, et il montre qu'il y a un besoin immense de se sentir bien dans l'époque où nous vivons dans tous les domaines. La question que nous pourrions alors poser est alors la suivante. Le plus important est-il de rechercher avant tout son propre plaisir et le bonheur, ou bien n'est-il pas de favoriser le bonheur des autres, fût-il de courte durée? Paul a d'ailleurs déclaré qu'il y avait plus de bonheur à donner qu'à recevoir. En ce sens, nous sommes tous appelés quelque part à être comme des super-héros du bonheur pour les autres. Choisissons ainsi d'être des moteurs de bonheur pour ceux qui nous entourent. Nous pouvons les rendre heureux grâce à nos paroles ou bien encore à l'attention que nous leur accorderons. Seul Dieu peut nous accorder le bonheur avec un grand B, mais nous pouvons offrir autour de nous des petits instants de bonheur de façon très simple, et c'est ce que je voudrais partager avec vous ce matin. Jésus a dit à Pierre, en le regardant, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Képhas, ce qui signifie Pierre. » Jésus savait exactement comment encourager les gens. Il savait tirer le meilleur d'eux, même quand il semblait ne rien y avoir de particulier à tirer d'eux. Et dans cette première rencontre, avec Simon, le pêcheur impulsif et bavard, Jésus va le montrer. Au début, quand l'entourage de Pierre a pris son nouveau nom, ses amis et sa famille ont dû être surpris. L'Évangile nous dresse en effet un portrait d'un Simon impulsif, indécis, généreux, peureux. Bref, il ne semblait pas démontrer par sa vie la solidité et la fidélité d'un rocher pour les autres. Pourtant, ce pêcheur inculte et inconstant allait devenir un jour le chef de l'Église primitive. Et il allait être celui qui allait donner le démarrage en Israël à une foi renouvelée. Parce que tout simplement, un jour, quelqu'un, le Seigneur en l'occurrence, avait cru en lui et était resté fidèle avec lui sur le chemin, malgré ses inconstances, malgré ses maladresses. Pierre a pu ainsi devenir à son tour un moteur pour ceux qui l'entouraient et jouer un rôle décisif dans la vie des autres. Quand Jésus vit Pierre pour la première fois, il regarda au-dessus de ses problèmes, des bizarreries de son caractère, de ses péchés. Petit à petit, Jésus a transformé les faiblesses de Pierre en points forts. Il a cru en Pierre et il a tiré le meilleur de lui. Pierre changea ainsi lentement. Cela prit du temps. Cela occasionna des souffrances qui l'amenèrent jusqu'aux affres de la culpabilité lorsqu'il renia son maître. Mais dans le Nouveau Testament, par la suite, dans le livre des Actes, nous voyons que Pierre est transformé et qu'il est capable d'apporter l'Évangile à des foules entières, qu'il est capable d'exhorter des milliers de chrétiens à résister dans le monde aux diverses souffrances qu'ils subissent de façon stable, persévérante, fidèle. Et ce fut possible à cause des encouragements que Jésus leur prodigua, lui prodigua durant toutes ces années de ministère. Pas seulement, bien sûr, ses encouragements, mais aussi ses réprimandes. Jésus a réprimandé plusieurs fois Pierre, mais Jésus sut réprimander Pierre en le respectant, sans le rabaisser, et cela ne l'empêcha pas de continuer à l'encourager. Dieu désire aussi t'encourager, toi, comme il a encouragé Pierre et d'autres personnes de la Bible. Il croit en toi, il t'aime d'un amour infini, et il l'a montré en donnant sa vie à la croix. Cela devrait te suffire pour écarter tout doute qui pourrait t'assaillir au sujet de son amour pour toi. Comme pour Pierre, Jérémie ou Gédéon, il peut tirer le meilleur de toi. Il ne voit pas seulement la personne que tu es, mais il voit aussi celle que tu vas devenir et celle que tu peux devenir. Si nous nous décidons à exercer le même ministère d'encouragement que Jésus, nous pourrons aussi aider les autres à changer comme nous laissons Dieu nous changer. Il suffit pour cela tout simplement d'un peu d'amour et d'encouragement. Louis Fischer écrivit au sujet d'un grand homme de Dieu. Il refusait de voir le mauvais côté des gens. Il transforma souvent des êtres humains, non pas en les regardant comme ils étaient, mais comme s'ils étaient ce qu'ils auraient voulu être. Il transforma souvent des êtres humains, non pas en les regardant comme ils étaient, mais comme s'ils avaient été ce qu'ils auraient voulu être. Il refusait, cet homme-là, de voir le mauvais côté des gens. Et nous, est-ce notre cas? Je dois bien convenir que bien souvent, eh bien, je vois le mauvais côté des gens, d'abord, et que je suis prompte à les critiquer. Je n'ai ni patience, ni amour envers eux, juste aucune pitié et un jugement trop rapide et bien trop certain. Pourtant, si j'essayais de gratter derrière ce mauvais côté, et si j'essayais de faire fonctionner mon empathie, eh bien je verrais que le mauvais côté des choses cache souvent une blessure, une souffrance, une plaie béante qui ne demande qu'à être guérie pour que cette personne avance et change positivement. Un visiteur de prison racontait que les détenus lui disaient toujours la même chose. « Personne ne se soucie de moi au dehors. Personne n'a pris la peine de croire en moi. » De ce fait, beaucoup préféraient rester en prison, dans un monde maîtrisable, où la souffrance était peut-être moins grande, mais quelque part aussi, ils avaient réussi dans ce lieu-là à être reconnus et à trouver des gens qui pouvaient croire éventuellement en eux. De ce point de vue-là, ils ne voulaient plus quitter leur prison. Et il y a ainsi tant de gens autour de nous qui vivent dans leur propre prison et qu'ils ne veulent pas en sortir parce que tout simplement la peur de ne pas être aimé, d'être rejeté, d'être abandonné, mis à l'écart est trop forte. Mais en tant que chrétiens, nous sommes appelés à passer la main à travers les barreaux de cette prison et à l'attendre à ceux qui nous entourent, à ces personnes pour les aider à sortir de leur cellule et à lui faire rencontrer celui qui peut apaiser toute souffrance, toute peur et tout besoin. Jésus resta aux côtés de Pierre pendant 3 ans. Même quand au bout de 3 ans, Pierre le renia si ouvertement, Jésus demeura près de lui et Pierre, touché par cela, changea. Qui est le Simon-Pierre de ta vie? Que vas-tu faire pour marquer une différence dans sa vie? Encourager l'autre, c'est bien évidemment, comme l'indique le mot, lui donner du courage. Nous avons tous des domaines dans lesquels nous nous sentons hésitants. Nous manquons de courage, ce qui fait que nous n'osons pas faire des choix bons ou osés. Le potentiel qui sommeille ainsi chez votre conjoint, votre enfant, votre ami, votre parent, dans tel domaine où il manque d'assurance, ne demande ainsi pour être réveillé qu'une parole d'encouragement de votre part. Alors ne faites pas pression sur l'autre pour qu'il se lance dans ce que vous désirez. Il s'agit plutôt de l'encourager à développer un désir qu'il a déjà. Par exemple, des hommes poussent leur femme à perdre du poids. En faisant cela, ils disent qu'ils l'encouragent. Mais la femme le prend plutôt des fois comme une condamnation et un jugement. Ce n'est que quand elle désire perdre elle-même du poids que vous pouvez l'encourager et que vos paroles seront alors perçues comme aimantes et non comme des paroles de rejet. Nous devons d'abord découvrir ce qui compte pour l'autre. Moyennant cela, nous pourrons encourager. Notre message passe par nos paroles d'encouragement et il sera alors « Je sais ». Je partage. Je suis à tes côtés. Comment puis-je t'aider? Nous montrons ainsi à l'autre que nous croyons en lui, que nous avons confiance en lui, et nous le valorisons ainsi. Une autre façon d'être un moteur dans la vie des autres est de leur envoyer une opinion positive sur eux-mêmes. Mark Twain disait qu'il pouvait vivre 2 mois sur un seul bon compliment. À ce sujet, je voudrais vous raconter une petite anecdote qui est très caricaturale, mais qui est instructive. Il y avait un couple où madame voulait apprendre à son époux comment être plus gentille avec elle. Peut-être cela évoque des choses. Elle dénicha un jour un livre intitulé « Comment dresser les chiots ». Elle suivit simplement les recommandations de ce livre à la lettre en substituant le mari au chiot. Donc, à chaque fois que monsieur avait une attention gentille à son égard, elle le complimentait et le récompensait. Elle caressait son cou comme le livre sur les chiots le recommandait, et monsieur apprenait à être plus gentil. Tout alla bien jusqu'à ce que monsieur trouve le livre sur le dressage de chiens et les notes de son épouse. Un désastre s'abattit sur le foyer, car monsieur n'appréciait pas d'être dressé comme un chien, et il reprit ses mauvaises habitudes. Alors, c'est très caricatural. Mais un enseignement peut quand même être tiré de cette histoire, c'est que l'encouragement est puissant et qu'il peut changer des vies. La Bible nous encourage à utiliser notre langue de la meilleure manière, en encourageant et en valorisant les autres, et non en les maudissant, en les médisant et en les critiquant. L'apôtre Jean dira dans sa première lettre, « Petits enfants, n'aimons pas en parole Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Aimer en parole, dit Jean. Cela signifie tout simplement déjà avoir des paroles aimables. Notre façon de parler peut tout changer. Notre intonation de voix compte tout autant que les mots qui sont utilisés. La phrase, par exemple, « Ah, je suis ravi de faire la vaisselle ce soir, mon amour. » Dite sur un ton comme ça, n'exprimera sûrement pas de l'amour. A contrario, nous pouvons partager la peine, la colère ou la souffrance en disant avec gentillesse et douceur, « Je suis peiné que tu n'aies pas proposé de m'aider ce soir. Une femme ou un homme qui parle fera ce qu'il faut pour parvenir à l'intimité avec l'autre en extériorisant ses sentiments. Notre manière de parler est donc importante. Dans les proverbes, nous pouvons lire qu'une parole douce, par exemple, calme la fureur. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de manipuler les autres avec nos paroles valorisantes, il ne s'agit pas non plus de les flatter. Mais quand l'occasion nous en est donnée, eh bien nous pouvons faire un compliment, par exemple à notre épouse, qui s'est parée de ses plus beaux vêtements achetés tout récemment. Ou bien quand notre maman ou notre épouse encore nous fait à manger, nous pouvons lui dire « Ah, ce que tu as fait est excellent, je me délecte !» Parce que souvent, le repas arrive sur la table et puis des compliments, il n'y en a pas. De même pour les dames avec les messieurs. Quand monsieur va sortir la poubelle, ne lui dites pas « Ah, enfin, il était temps que tu t'en occupes parce que sinon les mouches allaient s'en occuper pour toi !» Vous pouvez lui dire par contre « Je suis vraiment reconnaissante que tu sortes les poubelles. » Ou bien encore, vous pouvez lui dire que vous êtes reconnaissant qu'il ait pris soin de laver la voiture. Ce sont des petites attentions aux questions et des paroles positives et constructives qui vont encourager l'autre et qui entretiendront l'amour au quotidien avec ceux que nous côtoyons, famille, amis, collègues, voisins, etc. Pas comme certains couples où madame est sans cesse en train de rabaisser, où madame est toujours en train de rabaisser monsieur par des propos critiques, ou dans d'autres couples où monsieur est toujours en train de faire le macho avec son épouse. Que dire encore des familles où les enfants sont constamment critiqués et rabaissés par leurs parents qui ne les trouvent jamais assez parfaits et ne les laissent pas s'épanouir. Par exemple, combien d'enfants rentrent à la maison avec des notes 17, 18 sur 20 et ils s'entendent dire « Ah mais non, mais c'est pas assez bien, tu aurais dû avoir 20 là, c'est pas possible !» Ça n'est jamais assez bien pour ces enfants-là. Mais il y a de quoi vraiment être découragé. Que dire encore des personnes âgées dont l'entourage profite de leur faiblesse pour les rabaisser toujours plus au lieu de les aider à garder leur dignité en les encourageant par des paroles bonnes? Je pourrais rallonger la liste pendant un certain temps en passant par le monde du travail et en allant même jusqu'au cœur de l'Église. Ne soyons pas avares de compliments, mais soyons avares de critiques, de propos négatifs et dénigrants. Il n'y a pas que la parole qui peut nous être un moteur dans la vie des autres. Une autre façon de l'être est de se rendre disponible pour les autres, ce qui est un réel défi dans la vie évidente dans laquelle nous sommes. À commencer par les propres membres de nos familles. Certaines études recensent par exemple que les pères ne parleraient que 3 minutes avec leur fils par jour. Mais alors il ne faut pas s'étonner, bien évidemment, que ces enfants se sentent délaissés et n'avancent pas dans leur vie. Or, nous nous rappelons peut-être cet épisode où les parents, nous l'avons lu d'ailleurs, les parents amènent leurs enfants à Jésus et où les disciples tentent de les repousser. Mais Jésus les accueille et prend du temps avec eux. Il dira « Laissez les petits-enfants venir à moi. Ne les empêchez pas parce que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. » Jésus a pris du temps avec les petits-enfants et les enfants ont dû l'aimer. Et ils ont dû répondre positivement à cette disponibilité qu'il manifestait pour eux. Les gens savaient qu'il était disponible pour passer du temps avec eux et répondre à leurs besoins. Et quand il était disponible, il était beaucoup, il était pleinement. C'est-à-dire que son corps, son âme et son être entier se rendaient disponibles pour la personne qu'il avait en face de lui. Il avait une attention pleine et entière pour la personne. Il n'était pas en train de lui parler et puis en même temps de regarder sur son portable, par exemple. Quand nos amis et notre entourage sait que nous sommes disponibles ou que nous pouvons nous rendre disponibles pour eux, c'est une force qui s'applique pour eux, pour qu'ils aillent plus loin, parce qu'ils savent qu'il y a toujours quelqu'un sur qui ils pourront compter. Mais pour être disponible ainsi pour les autres, il faut d'abord savoir se rendre disponible dans notre relation avec Dieu. C'est en choisissant de prendre du temps avec Dieu volontairement et au détriment de bien des choses qui peuvent nous sembler urgentes et pressées que nous pourrons apprendre à prendre le temps d'avoir le temps de la relation à l'autre. Si nous ne sommes pas capables de nous rendre disponibles pour celui qui est notre Père, notre Seigneur, notre ami, notre frère, à combien plus forte raison aurons-nous du mal à l'être avec les autres ? Notre façon d'être disponible demande de la sagesse. Ne devenons jamais trop préoccupés ou occupés pour rater la divine option, celle de celui qui vient taper à la porte alors que c'était pas du tout prévu et qui vient nous embêter, entre guillemets, en tout cas à notre goût. Non, ne soyons jamais trop occupés pour rater cette divine interruption que Dieu permet pour que nous ne passions pas à côté de la personne qu'il nous envoie. C'est dans ces occasions-là que Dieu nous teste pour voir si justement notre moteur est grippé ou pas, et si nous avons vraiment quelque chose à offrir aux autres. C'est de ces occasions qu'il se sert pour nous tester et nous donner l'occasion de faire des œuvres bonnes en aidant, en aimant notre prochain. C'est peut-être quelqu'un qui est seul et qui a besoin de parler, alors arrête-toi 2 minutes et écoute-le. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'encouragement, alors arrête-toi 2 minutes et dis-lui des paroles qui vont l'aider à repartir de l'avant dans les difficultés qui sont les siennes. Tout dépend de notre capacité à nous rendre disponibles pour les autres. Nous ne pouvons offrir meilleur don aux autres que notre temps et notre attention. Aujourd'hui, nous courons après le temps et nous n'avons pas le temps de nous arrêter pour faire attention aux autres. Il faut que les choses aillent vite et bien. Dans un témoignage, justement, un homme parlait du fait que sa grand-mère devenait vieille et sénile. Au cours d'une réunion de famille, cette grand-mère s'est écriée « Je me sens si seule et inutile, je voudrais être morte. » Cet homme alors se retourna vers elle et lui dit « Mamie, ta seule présence dans cette pièce fait une différence dans ma vie. » N'attendons pas que les autres croisent notre chemin. Rendons visite à un voisin, à un ami, à un membre de notre famille solitaire. Offrons-leur un peu de notre temps si précieux. Que le Seigneur nous renouvelle pour que nous puissions être des moteurs, effectivement, dans la vie des autres. Que nous puissions découvrir comment nous rendre disponibles pour eux. Qu'il puisse nous renouveler par son Saint-Esprit afin que nous puissions avoir des paroles d'encouragement, des paroles d'attention, des paroles valorisantes pour l'autre. Que son esprit également puisse nous faire bannir de notre langue toute parole qui pourrait être dénigrante, qui pourrait faire du mal à l'autre. Qu'ainsi, il nous renouvelle pleinement encore ce matin dans notre relation avec ceux qui nous entourent. Amen.